VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Timothée Dolangmaï avec vous ce soir. Bonne et heureuse année 2023 à tous. À l'occasion du nouvel an, VOA Afrique vous propose une programmation spéciale. Avant tout, un bulletin d'information. 6 mois de prison ferme infligée ce lundi à 2 députés de l'opposition sénégalaise pour avoir frappé une collègue de la majorité. La députée Amine Diaye a été hospitalisée après que Massata Samb l'a giflé et que son collègue Mamadou Niang lui a décroché un coup de pied au ventre en pleine session publique. Elle risque de perdre le bébé qu'elle porte, avait dit lors du procès son avocat Maître Baboukar Cissé. Les deux parlementaires écroués depuis le 15 décembre ont été jugés le 19 décembre par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Tragédie en Ouganda où au moins 9 personnes, dont 5 enfants, sont mortes étouffées alors qu'elles allaient voir un feu d'artifice du Nouvel An. La foule s'était retrouvée coincée dans un couloir étroit d'un centre commercial près de la capitale Kampala, a annoncé la police. Patrick Onyango, porte-parole de la police métropolitaine de Kampala, affirme qu'une enquête sur la catastrophe a été ouverte. Au moins 20 personnes ont été tuées dans la région sécessionniste somalienne du Somaliland lors d'affrontements entre manifestants antigouvernementaux et forces de sécurité sur plusieurs jours, a fait savoir à Reuters Mohamed Farah, médecin à l'hôpital de Las Kanoud. Les manifestants exigent que le Somaliland cède le contrôle de cette ville au Puntland, l'une des régions semi-autonomes de la Somalie. Dans un communiqué, le ministre de l'Information du Somaliland, Saleban Ali Kouré, a appelé samedi les manifestants à arrêter leurs protestations et à entamer des négociations avec le gouvernement. Perturbation dans les transports publics à Tunis ce lundi en raison d'une protestation des agents de la principale compagnie de tramway et de bus. À l'appel de la Fédération du transport affiliée à l'UGTT, la puissante centrale syndicale, les agents de la Société de transport de Tunis ont manifesté dans la matinée devant le siège du gouvernorat à Casbah pour dénoncer le retard de versement de leur salaire et la non-obtention de la prime de fin d'année. Le Malawi a retardé l'ouverture des écoles primaires et secondaires dans ses deux principales villes, à savoir Blantyre et Lilongwe, pour tenter de ralentir la flambée des décès dus au choléra. Une nouvelle date de réouverture sera annoncée ultérieurement, a déclaré le ministre de la Santé, Kumbize Chiponda, dans un communiqué. On compte à ce jour plus de 17 800 cas de choléra et 595 décès depuis le mois de mars, avec un taux de mortalité augmentant à 3,34% selon le ministère de la Santé du Malawi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une nouvelle attaque aérienne a visé ce matin Kiev en Ukraine, où des dizaines de frappes russes ont fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités ukrainiennes. La défense antiaérienne ukrainienne dit avoir abattu 41 drones et un missile russe. Moscou fait état de son côté d'une attaque ukrainienne au drone sur des installations électriques de la région de Bryansk, frontalière de l'Ukraine, et affirme avoir abattu un drone de reconnaissance ukrainien se dirigeant vers la grande ville de Voronezh. Le Parlement européen a annoncé ce lundi avoir lancé une procédure d'urgence à la demande des autorités judiciaires belges pour lever l'immunité de 2 eurodéputés, l'Italien Andrea Cozzolino et le Belge Marc Tarabella, dans le cadre d'une enquête pour corruption impliquant le Qatar. Tous deux sont visés dans le cadre de l'enquête qui a conduit les enquêteurs belges à arrêter le 9 décembre la vice-présidente de l'institution, l'eurodéputée socialiste grecque Eva Kaili. Et des milliers de fidèles ont afflué lundi au Vatican pour rendre un dernier hommage à Benoît XVI, mort samedi à 95 ans et dont le corps est exposé sous les ors de la basilique Saint-Pierre de Rome avant ses funérailles. Les Brésiliens, eux, font leurs adieux lundi à appelé 4 jours après sa mort à l'âge de 82 ans lors d'une veillée publique de 24 heures au stade de la ville de Santos où la star du ballon rond a forgé une grande partie de sa légende. Voilà, c'est tout pour ce bulletin. Rendez-vous dans 1 heure pour un autre point de l'actualité.
Bonjour, bienvenue dans ce programme spécial que vous propose VOA. Lionel Gaïma à la présentation. Au cours des 25 prochaines minutes, nous allons revisiter les événements qui ont marqué l'année 2022 dans quelques pays africains. Nous démarrons par la RDC où l'actualité a été dominée par plusieurs événements. Le pays a connu la résurgence du M23 dans l'Est et la naissance d'un nouveau foyer de tension dans l'Ouest. Le pays a aussi connu plusieurs événements tragiques, dont notamment les décès dus aux inondations à Kinshasa et le massacre de Kishishi dans le Rutshuru. La rétrospective des grands événements en RDC avec Alex Katikatai, notre correspondant à Kinshasa.
L'année 2022 a pourtant bien commencé en RDC. Entre janvier et février, la situation générale était d'apparence calme. L'armée congolaise menait des opérations conjointes avec l'armée ougandaise dans les Grands Nord, au Nord Kivu, pour lutter contre les ADF. Ce rapprochement entre Kinshasa et Kampala fait réagir à Kigali. En mars 2022, les lignes bougent. Le M23, pourtant défait en 2013, refait surface. Il attaque la cité de Bunagana et l'occupe après les retraits de l'armée loyaliste. Dans les rangs de l'armée, on parle de trahison. Plusieurs officiers sont alors arrêtés et traduits en justice. L'opinion nationale s'élève pour dénoncer l'attitude de l'armée. Les critiques sont prises en compte par l'autorité congolaise. Début octobre, le président Tshisekedi nomme un nouvel état-major général des FARDC. À côté de ces nouvelles nominations, dans une adresse à la nation début novembre, le président Tshisekedi lance un appel à la mobilisation générale pour défendre la patrie en danger. Le lendemain, des milliers de jeunes filles et garçons à travers le pays se font enrôler dans l'armée. La réforme des FARDC est lancée. Sur terrain, les affrontements reprennent et les localités tombent. Le M23 progresse jusqu'aux portes de Goma, à Kibumba. Du côté gouvernement, on privilégie la diplomatie. Les rencontres s'enchaînent. En novembre, une nouvelle feuille de route est décidée à Luanda, lors du mini-sommet des chefs d'État. Selon cette feuille de route, le M23 devait se retirer des zones occupées et retourner à ses positions initiales. Un dialogue entre le gouvernement et les groupes armés locaux est encouragé. Il aura finalement lieu en début décembre à Nairobi, au Kenya. Le M23 n'y prend pas part. Kinshasa refuse toute négociation avec ces groupes s'ils ne déposent pas les armes. Ce que le M23 rejette et campe sur ses positions. Le mouvement refuse aussi de mettre en application les résolutions de Luanda. C'est seulement il y a une semaine qu'il a annoncé son retrait de Kibumba.
Nous avons pris la décision de nous retirer de Kibumba pour donner chance à la paix, pour appuyer les efforts du mini-sommet tenu à Luanda le 23 par les chefs des États.
L'armée de son côté parle d'un leurre et d'une annonce pour tromper la vigilance.
Les désengagements annoncés avec pompe de terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale.
Pendant ce temps, ce qu'on croyait être un petit conflit communautaire dans le Maïndombé a pris de l'ampleur. Des miliciens Bayaka et Bateke s'entretuent depuis le mois de février et la situation humanitaire se dégrade. Les autorités congolaises sont intervenues, l'armée est envoyée sur place. Mais le calme est loin de revenir. Des milliers de personnes sont obligées de fuir Kwamout et ses environs. Les affrontements ont vite gagné les provinces voisines du Kwilu et du Kwango. En début décembre, la périphérie de Kinshasa a été aussi touchée. On a dénombré près de 20 morts à Maluku, à l'entrée de Kinshasa. Décembre est aussi le mois où la diplomatie congolaise a été récompensée par une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'agit de la levée de l'obligation de notification sur les armes destinées à la RDC. Une décision saluée par tout un peuple.
On ne peut pas minimiser cela. C'est une victoire diplomatique, mais sans triomphalisme. Nous devons cette victoire en vérité au courage politique, au dynamisme et à la détermination du président de la République.
Sur le plan économique, l'année 2022 a été marquée par la hausse des prix du carburant ainsi que de certains produits alimentaires. Les conséquences de la guerre en Ukraine n'ayant pas épargné l'Afrique. Un litre d'essence est passé de 1 850 francs congolais en début d'année à plus de 2 800 en fin d'année. Le gouvernement continue à stabiliser le prix par des subventions payées aux pétroliers. Pour faire face aux prochains désagréments et se préparer contre des pénuries, la RDC a signé en novembre dernier un partenariat avec la Guinée équatoriale pour la construction d'une raffinerie de pétrole dans l'ouest du pays. En sport, l'année 2022 n'a pas été luisante pour le sport congolais. L'élimination des Léopards de la RDC pour la Coupe du Monde par le Maroc reste l'événement le plus marquant. La consolation est venue de la boxe avec la victoire de Martin Bakole face au franco-congolais Tony Yoka en mai dernier. En culture, c'est l'un des grands événements de l'année 2022. Ce grand concert de retrouvailles et de réconciliation du groupe Wenge Musique à BCBG. Après 25 ans de séparation, les anges adorables, comme on les appelait, se sont réunis le temps d'un concert devant plus de 80 personnes au stade des martyrs de Kinshasa le 30 juin. Ce même stade des martyrs sera théâtre d'un drame trois mois plus tard. Plus de 15 personnes ont trouvé la mort lors de la prestation de l'artiste musicien Fally Ipupa. La culture congolaise a été aussi amputée de certains de ses ambassadeurs en cette année 2022. Il s'agit notamment de Verkis Kiamangana et d'Elisabeth Chalamwana, morts respectivement en octobre et décembre 2022. Plusieurs autres événements malheureux ont été enregistrés cette année 2022. Il s'agit notamment du massacre de Kishishe au Nord Kivu, perpétré par le M23 en novembre dernier, des différents morts causés par les ADF et autres groupes armés en Ituri, au Maïndombe et au Nord Kivu. Sans oublier, c'est plus de 160 personnes emportées par les pluies diluviennes à Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier. Alex Katikatai, Kinshasa, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez la rétrospective 2022 dans les pays africains. Au Tchad, l'année 2022 a été marquée par des soubresauts liés à la transition après un dialogue de sourds. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, revient sur quelques faits qui ont marqué l'année 2022 au Tchad.
En 2022, deux faits majeurs. Les événements du 20 octobre qui sont les conséquences directes des conclusions du dialogue national dit inclusif et souverain que certains appellent jeudi noir et les inondations qui ont fait des dégâts dans une grande partie du pays. Des jeunes aux mains nues ont essayé de refuser de cautionner un plan dynastique au Tchad. Ils se sont fait tirer à balles réelles par les forces de défense et de sécurité. Josué Tapambaï, homme politique et ancien député.
Vous voyez qu'à la sortie seulement de ces dialogues, il y a eu le carnage du 20 octobre, où jusqu'à là, on ne connaît pas combien ils ont tué, combien ils ont déporté, le nombre de disparus, personne ne maîtrise.
Saleh Kebzabo, actuel premier ministre de transition et ancien opposant, disait en son temps qu'il utiliserait tous les moyens légaux, y compris ceux de la rue, pour exiger plus de la démocratie. Mais cette fois-ci, il n'a pas été tendre avec ceux qui réclament aujourd'hui la démocratie.
Dès lors que le dialogue national inclusif a été décrété souverain, d'où vient donc que certains citoyens s'insurgent contre cela au point de fomenter un coup d'État par une insurrection armée? Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et près de 300 blessés, surtout à N'Djamena, mais aussi à Mundu, Doba et Koumra.
Une situation ayant entraîné l'instauration du couvre-feu à N'Djamena et dans trois provinces du pays, la suspension des activités publiques du mouvement Les Transformateurs, le Parti Socialiste Sans Frontières, Altaka Domewakitama, pour une période de trois mois. Josué Tapambaï, homme politique et ancien député, estime que le dialogue qui était censé réconcilier les Tchadiens a été un échec.
C'est pas la réponse que le gouvernement devrait apporter à cette manifestation. Des gens aux mains nues, on ne peut pas dire que c'est une insurrection. Ce sont tous les mécontents, les exclus de la société qui veulent porter leur voix. Un peu partout, c'est la désolation. Il y a eu une dislocation sociale. Le 28 novembre, la prière annuelle n'a pas eu lieu. Les chrétiens se sont retirés. Cela veut dire qu'il y a une fissure.
La prière du 28 novembre date de la proclamation de la République du Tchad, dont fait allusion l'ancien député, a été instituée en 2011 par feu président maréchal Idriss Déby Itno. Une occasion pour les trois confessions religieuses de se mettre ensemble pour prier pour la paix et la cohabitation pacifique du peuple tchadien. Le secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad, Abbé Raymond Guelbe, estime que l'objectif de cette journée, qui était l'initiative de l'Église catholique, est en train d'être dévié par les hommes politiques.
Nous voulons prier pour la paix. Nous lançons des appels pour la paix. Mais quand on voit le comportement des acteurs politiques sur le front. On crée des situations sur tout et on ne dit pas la vérité sur des événements qui se passent. Et quand les leaders religieux ont le courage de donner aux sociétés des lignes pour rappeler à l'ordre, alors on les considère comme des opposants. Donc, c'est question de responsabilité et surtout dans le cas de cette année où, à la date du 28, il y avait le corps encore dans le feu, il y avait des gens qui étaient justement arrêtés. Il y a même des gens qui sont des demandeurs de maison et qui ont pris le bas de la vie et qui sont morts. Et cette situation est venue pourquoi? Parce que justement, on n'a pas voulu écouter les leaders religieux.
Pour les défenseurs des droits de l'homme, la transition est une période sombre où les Tchadiens ont vécu le pire moment de leur vie.
L'homme s'est permis, parce qu'il a l'arme, il peut aller même dans les chambres des individus pour leur ôter la vie, c'est du jamais vu dans l'histoire de ce pays.
Céline Narmadi, membre des organisations de la société civile du Tchad, la discrimination dans la vente de céréales au prix subventionné destiné aux familles démunies, les conflits élevant agriculteurs souvent soldés par de morts d'hommes et la gestion des inondations par les autorités de transition constituent d'autres faits qui l'ont marqué en 2022.
C'est difficile d'accéder à ces céréales-là, ça fait qu'il y a la famine. Et le conflit éleveur-agriculteur, ce n'est plus un conflit éleveur-agriculteur, mais conflit entre autorités administratives et les paisibles citoyens. Tout le Tchad est embrasé par ce nouveau concurrent à la gâchette facile. Vraiment, le Tchad est devenu une jungle. L'humanisme a quitté le Tchad. Le problème de l'inondation, c'est exprès, c'est mal géré. Il n'y a pas de chef dans la gouvernance. Cette hypocrisie gouvernementale-là, que ça fait.
Autre fait qui ont défrayé la chronique cette année, c'est le procès des manifestants arrêtés à Korotoro, la prison de haute sécurité en plein désert, lors d'une audience foraine boycottée par les avocats du Tchad. En moins de 4 jours, plus de 400 personnes ont été jugées, dont certains ont écopé d'une peine d'emprisonnement ferme de 2 à 3 ans, dont un journaliste travaillant pour un média en ligne. Deux autres confrères sont tombés sous les balles de forces de l'ordre en 2022. L'un en février lors d'un conflit intercommunautaire dans le sud du Tchad et l'autre le 20 octobre à N'Djamena. Tous deux travaillaient dans les médias privés et aucun des auteurs de ce meurtre n'a été arrêté ni inquiété. 2022 a été la continuation de l'impunité au Tchad. Bonne et heureuse année 2023. André Kodouma Djingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique. Vous écoutez la rétrospective 2022 dans les pays africains. Direction le Cameroun. L'année 2022 a été dominée par la frénésie du football. Mais la sélection nationale n'est pas parvenue à marquer l'histoire, ni lors de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par le pays des Lions Indomptables, encore moins en participant pour la 8e fois à une phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. La toute première visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun a aussi été un temps fort au cours de l'année qui s'achève, sans oublier les conséquences de la guerre en Ukraine, les 40 ans au pouvoir du président Paul Biya ou encore les procès de certains ex-hauts dignitaires poursuivis et condamnés pour détournement de fonds. 2022, un rétroviseur avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Les performances de l'équipe nationale du Cameroun en 2022 ont été largement en deçà des attentes du public sportif. Au bilan, une troisième place au terme de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Bercail et une sortie au premier tour, malgré une victoire historique face à une équipe du Brésil remaniée à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Un supporter des Lions dont tire les leçons de ses contre-performances.
Que les Camerounais parlent moins et qu'ils travaillent beaucoup plus. Nous avions quand même la possibilité de pouvoir remporter cette CAN. Et nous avons vraiment beaucoup à faire en ce qui concerne le domaine du travail, que ce soit même dans la discipline, que ce soit sur le plan tactique et même stratégique de notre jeu. Et je pense également que ça interpelle le nouveau exécutif de la FECAFOOT, surtout notre coach, qu'il soit un peu plus audacieux et qu'il n'ait pas peur de donner la chance aux jeunes.
Ironie du sort, le jeune gardien des Lions Indomptables, André Onana, 26 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière en équipe nationale. Il a été exclu du groupe lors de la Coupe du Monde pour des raisons disciplinaires, d'après la Fédération Camerounaise de Football. La retraite d'André Onana est une décision diversement appréciée.
Chaque Camerounais vous dirait qu'il n'est pas content de ce départ de ce jeune footballeur. Et vous savez, le départ d'un joueur comme celui-là peut affecter également ses frères. Nous demandons déjà et nous prions ceux qui sont là vraiment de rester forts.
Le Cameroun n'est pas en souffrance des gardiens. Hein, vous pouvez avoir tout le talent du monde, mais si vous n'ajoutez pas cela à l'humilité, la discipline, vous n'irez pas loin. Mais je crois quand même que cette décision-là va déteindre plus ou moins sur sa carrière.
Autre point de divergence au Cameroun en 2022, les 40 ans au pouvoir du président Paul Biya, célébré avec faste le 6 novembre dernier par ses partisans qui lui attribuent d'ailleurs un bilan élogieux.
Il y a la paix au Cameroun parce que quand on entend tout ce qui se passe dans les autres pays, vraiment nous sommes heureux.
Avant ces 40 ans, on comptait les universités privées. Ça n'existait même pas. Mais même les universités publiques, on connaissait juste Yaoundé 1. Maintenant, il y a beaucoup de réalisations parce que maintenant, le président de la TV a mis des emplois aux jeunes.
Mais ce jeune commerçant à Yaoundé, qui n'a connu que le président actuel, est moins enthousiaste sur ce long bail à la tête de l'État.
Nous, on a un régime, on a des vieillards, on a un régime sans emploi, sans rien. Il crée des entreprises privées pour recruter, pour qu'il y ait moins de chômage. Et ce que nous, les gens, veulent, 40 ans, c'est toute une vie. Une autre personne peut venir à échange et tic-tac, parce que tu ne peux pas tout travailler tout seul.
Âgé de plus de 89 ans, le président Paul Biya a montré à deux reprises en public quelques signes inquiétants au courant de l'année qui s'achève. En décembre, lors du dernier sommet des dirigeants africains aux États-Unis, et en juillet, pendant la conférence de presse à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun, ce qui a une nouvelle fois fait enfler le débat de sa succession. Francis Simeux, expert en gouvernance.
En démocratie, désigner derrière quelqu'un peut susciter des convoitises et on ne sait pas où ça peut emmener. Mais je pense que jusqu'ici, on regarde et on constate qu'au sein même de l'appareil gouvernemental, on ne cesse de ressentir des signaux. Qu'au sein même de l'équipe, il y a des gens qui aimeraient voir quelqu'un d'autre à la tête du Cameroun. Mais le président bien ne s'est pas encore présenté. D'ici 2025, ce n'est plus encore très loin, c'est moins de 5 ans. Donc ça peut même se jouer avant.
Parmi les certitudes de l'année 2022 au Cameroun, il y a eu des impacts économiques et sociaux consécutifs à la guerre en Ukraine. Le prix de la baguette de pain a augmenté. Des pénuries de carburant ont été enregistrées, poussant le gouvernement à prendre certaines mesures. Louis-Marie Garqueu, économiste.
Le gouvernement a cherché pour le blé, par exemple, de nouvelles filières. En plus donc de la Russie et de l'Ukraine, le gouvernement se retourne vers la Turquie. En ce qui concerne la production nationale, en ce qui concerne la production du blé, le gouvernement semble être plus attentif aux possibilités de produire localement le blé. En ce qui concerne les farines alternatives, comme les farines de tubercule ou de maïs et autres céréales, le gouvernement aujourd'hui appuie la mise sur pied d'une plateforme nationale des producteurs de farine locale, ce qui est quelque chose d'intéressant.
2022 a été également marqué par la vague des condamnations devant le tribunal criminel spécial des ex-dignitaires poursuivis pour détournement de fonds. C'est ainsi que le journaliste Amadou Vamolke, ancien directeur général de la CRTV, l'organe audiovisuel d'État, a écopé de 12 ans d'emprisonnement après avoir passé 6 ans et demi en détention. L'ancien ministre des Finances Polycarpe Abba a été aussi condamné à 17 ans d'emprisonnement pour détournement en coaction avec Amadou Vamolke de la somme de plus de 570 millions de francs CFA. Les avocats de ces deux personnalités ont déposé un pourvoi en cassation à la Cour suprême. Yaoundé, Emmanuel Jolta, VOA Afrique.
Présent, faisons un saut en Afrique de l'Ouest pour nous arrêter d'abord au Mali. Entre la Coupe du Monde qui vient de finir, la guerre en Ukraine, le bras de fer entre le Mali et la France, la pandémie de Covid-19 et l'insécurité, ils sont nombreux, les événements qui ont rythmé la vie de Maliens au cours de l'année 2022. Notre correspondant, Mohamed Danioko, a tendu son micro à des Maliens de Bamako et du centre du pays. Voici ce qu'ils retiennent de l'année 2022.
Les événements qui nous ont marqués, c'est d'abord l'embargo que le Mali a subi. Vraiment, ça fait beaucoup de faits sur nos différentes activités. Ça, c'est en premier lieu. Et ensuite aussi, il y a la maladie à coronavirus. Vraiment, ça a vraiment réduit la mobilité économique au niveau Mopti ici. Et ça a vraiment chuté le taux de croissance au niveau de la région. Et ça a augmenté aussi le taux de chômage.
Les événements principaux m'ont attiré l'attention. Surtout la guerre en Ukraine, donc il y a un peu bouleversé l'ordre du monde. Et puis surtout les discours du Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga. Voilà les deux événements vraiment qui ont marqué l'année 2022 pour moi. Et côté sportif aussi, la Coupe du Monde, ça a été vraiment une réussite pour le Qatar, que ce soit côté organisation ou même les spectacles dans les jeux. Ce sont des temps forts pour moi en cette fin d'année de 2022.
En tout cas, ça a été une année d'opportunité pour moi, même si à un moment donné, j'avais envie de tout lâcher. Mais avec la grâce de Dieu, après, ça va. Il y a eu de nouvelles opportunités, j'en ai profité. Donc ça va maintenant. Et pour 2023 aussi, j'espère quelque chose d'encore mieux.
Pour l'année 2022, en réalité, c'est le discours du président de la transition qui a placé son mandat sous le signe de l'espoir de la jeunesse. C'est la jeunesse malienne qui a sué, alors que nous avons pris l'engagement à ce que la transition puisse être terminée de suite au temps. Nous sommes vraiment dans cette logique. Ensuite, l'embargo que la CEDEAO a mis sur le Mali, nous avons vu que les Maliens se sont soudés malgré les difficultés. On a tenu jusqu'à peu près 6 à 7 mois. Je pense que ça aussi, c'était quelque chose qui était formidable.
Les événements qui m'ont marqué ont été tout d'abord la situation Covid-19 qui a séduit presque tout le monde entier et qui a eu des séquelles partout. Ça, c'est un événement qui m'a marqué vraiment. Il va rester dans l'histoire, dans le canal de l'histoire.
Il y a plusieurs événements parmi lesquels je peux citer la récente la Coupe du Monde 2022. Vraiment, on a tous prié pour que Messi puisse enfin avoir sa coupe à lui, donc c'est fait. Et bien avant ça, vraiment, je pense que l'événement qui m'a marqué le plus a été cette maladie Covid. Beaucoup de gens, malheureusement, ont perdu la vue et le Mali n'était pas exception, ne faisait pas exception à ça. Donc voilà, c'est deux événements en grande partie qui m'ont marqué pendant l'année 2022.
En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre, les poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé, le dialogue interguinéen sont entre autres faits qui ont marqué l'année 2022. Voici la rétrospective de l'année avec des réactions au micro de notre correspondant Zakaria Kamara.
C'est le mercredi 28 septembre 2022 que les autorités judiciaires guinéennes ont annoncé l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009. Un soulagement pour les victimes, mais aussi un signal fort contre l'impunité des crimes de sang.
Je pense que c'est l'un des événements les plus marquants de l'année 2022. Et l'ouverture de ce procès, ça a été un fait inédit dans notre histoire. Moi, je n'y croyais pas, jusqu'à ce que, véritablement, je me suis rendu compte que nous sommes face à l'évidence. Et je trouve que les autorités du CNRD ont quand même eu à faire un formidable travail. La volonté politique a été totale.
Personne ne pouvait croire qu'en un temps record, avec l'arrivée de la junte au pouvoir suite au coup d'État, qu'on pouvait ouvrir ce procès qui a été tant attendu.
La junte au pouvoir en Guinée, depuis le 5 septembre 2021, a promis de faire de la justice la boussole qui doit orienter les Guinéens. Le 4 mai, le procureur général annonce des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables sous sa présidence. Condé est jugé en Guinée, ce citoyen n'y croit pas.
Je veux dire que c'est une peine à perdre aujourd'hui, parce que Alpha Condé, il était là à Conakry, on l'a laissé sortir pour aller en Turquie et après le poursuivre. C'est comme si vous étiez en train de faire le procès d'une personne déjà qui était morte. Moi, je pense que ça n'a aucun sens. Et même si aujourd'hui il y a des poursuites judiciaires contre sa personne et le gel aussi de ses comptes, moi, je pense qu'Alpha Condé, il est tranquille là où il est.
Plusieurs acteurs politiques sont visés par des procédures judiciaires, des actions de la justice guinéenne qui ont poussé certains partis politiques à bouder le dialogue politique recommandé par la CEDEAO. Mamadou Diallo livre sa compréhension de cette situation.
Je pense aujourd'hui que le dialogue a été fait sans les grandes coalitions politiques du pays. C'est un fait, puisque ces coalitions politiques du pays avaient des préalables qui n'ont pas été remplis. Mais je pense que ce dialogue a quand même un avantage, c'est que parmi les recommandations, il y a celle qui a retenu mon attention.
Les militaires au pouvoir en Guinée ont accepté d'organiser des élections au bout de 2 ans. Mais si la CEDEAO est d'accord, la question sur la date du début du chronogramme reste sans réponse claire. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Voilà, nous arrivons au terme de cette rétrospective de l'année 2022 qui nous a permis de revisiter les événements ayant marqué l'actualité dans certains pays africains. Toute l'équipe de VOA Afrique vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 en espérant que vous continuerez à être très nombreux à nous suivre en longue course en FM sur notre site voafrique.com, toutes nos plateformes digitales et à travers nos partenaires sur le continent.